Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous, l'été se poursuit et Accent d'Europe vous propose de réentendre ses meilleurs moments. À Palerme, en Sicile, la mafia est tombée sur un os. Des commerçants bangladais, fatigués d'être régulièrement rackettés, ont collectivement porté plainte et la police a réagi. Une dizaine de mafieux est devant la justice. Une action collective qui met mal à l'aise certains palermitains, irrités que ce soit des immigrés qui montrent l'exemple. Le reportage de Cécile Debarge.
Le long de la partie haute de la rue Makeda, les touristes flânent au milieu des musiciens ambulants, des glaciers et des vendeurs de souvenirs. Une Palerme douce et indolente, loin de la réalité de la partie basse de la rue. Le cœur bouillonnant du centre historique, là où le pizzo, l'impôt imposé par la mafia, fait partie du quotidien. Dans ce quartier où vit une très forte proportion d'immigrés, les commerçants étrangers étaient devenus une cible de choix pour les mafieux. Bijouteries, agences de voyage ou de transfert d'argent, petites épiceries, personne n'était épargné, raconte MDA Lamine, un Bangladais de 29 ans.
En général, ce qu'ils faisaient dans les magasins d'alimentation, c'était de prendre pour 10 ou 200 euros de marchandises et de partir sans payer. C'était ça le pizzo qu'ils appliquaient.
MD Alamine vit à Palerme depuis 1992. Il y est aujourd'hui le représentant de la communauté bangladaise et a donc été aux premières loges du coup de filet réalisé par la police italienne contre 10 mafieux du quartier après une plainte déposée par 13 commerçants bangladais de la rue Makeda.
C'est une terre qui a été dévastée par la mafia depuis 50 ans. Il y a donc une très forte culture de l'omerta. On ne voit rien, on n'entend rien, on ne dit rien. C'était donc un véritable acte courageux de briser cette culture très particulière.
Cela faisait des mois, parfois des années, que les commerçants subissaient vols, rackets, menaces et intimidations. Personne n'osait briser le silence de peur des représailles, explique MD Alamine.
Les commerçants habitent très souvent tout près de leur magasin et donc tout près des personnes impliquées dans ce business mafieux. Certains d'entre eux me disaient « D'accord, je vais porter plainte, mais ensuite, quand je rentre chez moi le soir, j'habite en face d'un tel ou d'un tel. Comment est-ce que je vais faire ?» On essaie alors de protéger les commerces, mais aussi les lieux d'habitation.
Au mois d'avril, déjà, MD Alamine avait lancé une pétition pour demander plus de surveillance policière. Elle avait été signée par une centaine de commerçants, tamouls, bangladais, africains et de très nombreux Italiens. Leurs témoignages ont d'ailleurs été recueillis dans le cadre de l'enquête, même si aucun d'eux n'a formellement porté plainte. Depuis l'annonce du coup de filet, les remerciements et les félicitations se sont multipliés. Les commerçants dont l'identité est tenue secrète, le temps de l'enquête, ont été traités comme des héros. Une réaction qu'ont dénoncé certains habitants du quartier lors de leur assemblée mensuelle.
Ça devrait être quelque chose d'acquis, ce sont des citoyens, ils n'ont fait que leur devoir. Nous sommes une seule et même communauté. Nous, ce qu'on veut, ce sont des Italiens, des Siciliens et des étrangers qui unissent leurs forces.
Après le soutien massif, nombreux sont ceux, comme cette habitante, à souligner que ce qui est anormal, c'est le silence de certains palermitains contre la mafia et non pas le courage de ceux qui osent la dénoncer, quelle que soit leur nationalité. Adam Darasha est un médecin palestinien. Il préside le Conseil des cultures de Palerme, chargé de représenter les immigrés.
Ce que je voudrais répéter encore une fois, c'est que le thème de la sécurité et de la légalité nous concerne tous, immigrés, italiens, tous ensemble. Palerme est une ville dont la majorité des habitants est honnête.
Et cette majorité honnête doit faire front ensemble. C'est en tout cas ce qu'espère MD Alamine.
La dernière chose qu'on veut, c'est qu'on nous laisse seuls. Là, nous sommes arrivés à un moment critique. L'enquête commence, il y aura un procès, il faut donc absolument que les forces de l'ordre, mais aussi les habitants, les citoyens, protègent ces personnes.
Dans une ville extrêmement cloisonnée géographiquement entre palermitains et immigrés, ce fait divers aura eu le mérite de montrer que la lutte contre la mafia et pour la légalité est uniquement une question de courage, une question de civilité aussi, insiste Léo Luca Orlando, le maire de Palerme.
Les Bangladais représentent la plus grande communauté à Palerme. Et le fait qu'ils aient dénoncé les mafieux et leur système de racket est la confirmation qu'ils se sentent citoyens de Palerme. De véritables citoyens, parce qu'ils ont défendu la ville comme ils l'auraient fait au Bangladesh.
C'est selon lui la confirmation que la seule solution viable est d'accueillir les migrants, qu'ils arrivent légalement ou illégalement.
Il faut expliquer aux gens que le meilleur moyen d'assurer notre sécurité, c'est d'accueillir les gens. Car un migrant, quand il est bien reçu, il va se sentir citoyen de la ville et il va évidemment la défendre, comme si c'était la sienne.
Depuis la première plainte déposée par 10 commerçants et devant le soutien populaire qu'ils ont reçu, 3 autres commerçants étrangers ont déposé plainte à leur tour contre les 10 hommes désormais mis en examen pour vol, violence, extorsion d'argent et association mafieuse.
En Allemagne, la sortie du nucléaire décidée au lendemain de l'accident de Fukushima jouit d'un large consensus, que ce soit au sein des partis politiques ou dans l'opinion publique. C'est loin d'être le cas chez les grands du secteur énergétique, car une centrale nucléaire en fonctionnement permet d'engendrer 1 million d'euros de bénéfices par jour. Les géants allemands du secteur considèrent donc la sortie du nucléaire comme une expropriation, sans compter le coût du démantèlement des centrales. C'est un reportage de Julien Méchaussier.
Nous sommes ici aujourd'hui pour défendre les intérêts de milliers de petits actionnaires. C'est leur économie, leur retraite qui sont en jeu. Nous voulons une sortie juste du nucléaire. Nous voulons être dédommagés pour réparer le préjudice qui nous a été imposé par une décision politique.
Devant les caméras des télévisions allemandes et à la sortie de la cour constitutionnelle de Karlsruhe, cet homme décidé et sûr de lui, c'est Johannes Thyssen, le président du groupe E.ON, l'un des 3 géants du secteur de l'énergie qui ont porté plainte contre la sortie du nucléaire. En jeu, plusieurs milliards d'euros de dédommagement et un marathon juridique qui s'annonce très long. Dans les couloirs du Bundestag et entre 2 réunions de la commission mise en place pour le financement de la sortie du nucléaire, Sylvia Kötting-Uhl s'entretient avec l'un de ses collaborateurs, député des Verts et porte-parole des questions nucléaires pour son parti. Elle ne peut cacher sa colère face au procédé de la filière du nucléaire.
Ils essaient de se faire passer pour Robin des Bois, mais en réalité, ce sont eux les escrocs et personne d'autre. Ils ont profité de l'argent des contribuables pendant des décennies, que ce soit via les subventions reçues ou leurs clients qui ont déjà payé pour le démantèlement de centrales nucléaires et le stockage des déchets. Et aujourd'hui, ils essaient juste d'obtenir cet argent une deuxième fois.
Et de l'argent, ces grands groupes en auraient bien besoin. Aux côtés d'E.ON, RWE et Vattenfall n'en finissent plus d'afficher des comptes dans le rouge. Des pertes de plusieurs milliards d'euros qui vont jusqu'à mettre leur existence en danger. La faute, selon eux, au débranchement de leur centrale, une décision qui serait purement politique. Mais pour Harim Brunnengräber, politologue expert du tournant énergétique à l'Université libre de Berlin, cette plainte devant la Cour constitutionnelle pourrait bien cacher tout autre chose.
Peut-être que le nœud du problème, ce n'est pas l'argent, mais se mettre d'accord sur un arrangement. Le gros point d'interrogation reste le stockage définitif des déchets radioactifs. Nous n'avons pas encore trouvé de site pour ces déchets et la question du financement est toujours en suspens. Il existe de nombreux indices qui laissent à penser que la stratégie des exploitants du nucléaire est la suivante. Nous retirons nos plaintes à la seule condition de ne pas financer entièrement le stockage des déchets.
En d'autres termes, un chantage inacceptable pour Sylvia Kötting-Uhl.
Dès l'an 2000, l'Allemagne a fait le choix d'une sortie du nucléaire. C'était une volonté politique claire et ces entreprises auraient dû s'adapter. Elles ont réussi à faire plier le gouvernement qui est revenu sur cette sortie, puis est arrivé Fukushima en 2011. Et tous les partis au Bundestag ont soutenu cette décision. Il faut que ce soit bien clair, nous ne reviendrons jamais sur la sortie du nucléaire. Ces grands groupes sont juste pris de panique, ils se disent « Oh mon Dieu, nous ne pouvons plus gagner d'argent avec le nucléaire. »
Avec raison, selon l'expert Achim Brunnengräber, car la question du financement de la gestion des déchets nucléaires n'est toujours pas réglée, malgré les 40 milliards d'euros mis de côté par E.ON, RWE et Vattenfall.
L'énergie nucléaire présente toujours un solde négatif. Si l'on compare les gains engendrés au coût du démantèlement des centrales et la gestion des déchets, vous ne pouvez qu'obtenir des pertes. Et à ce constat, il n'y a qu'une seule conclusion possible, les gains sont pour le privé, tandis que le public se retrouve avec les pertes sur les bras. En clair, c'est le contribuable qui passera à la caisse pour le stockage définitif des déchets.
zahlen müssen.
Le dernier réacteur nucléaire allemand devrait cesser de fonctionner en 2022. Pour autant, à cette date, l'Allemagne sera encore loin d'avoir soldé l'héritage de son passé nucléaire.
En Croatie, se produire dans une chorale pro-LGBT, féministe et révolutionnaire, ce n'est pas vraiment une sinécure. Pourtant, depuis plus de 10 ans, les 15 filles qui composent Lesbor donnent de la voix pour défendre les droits de toutes les minorités, Simon Rico.
Lesbor, c'est d'abord un jeu de mots entre l'article français « le » et « sbor » qui signifie « cœur » en serbo-croate. Justement, prononcé à la serbo-croate, ça donne « lesbor » qui veut dire « lesbienne ». Fondé en 2005, le groupe se présente comme le premier chœur lesbien de Croatie, mais en réalité c'est même le seul. Dans ce pays où l'église catholique est toujours très puissante, l'homosexualité reste tabou. Fin 2013, les deux tiers des Croates ont ainsi voté par référendum contre le mariage homosexuel. Et même si le Parlement a finalement voté une loi autorisant les unions civiles entre personnes de même sexe, les Gay Pride restent placés sous haute protection policière à cause des menaces constantes des groupes de hooligans d'extrême droite. Dans Lesbor, toutes les filles ne sont pas lesbiennes et la lutte pour les droits des LGBT n'est pas leur seul combat. Militante féministe affirmée, elle chante pour tous ceux qui sont marginalisés, tous ceux qui sont en lutte, qu'ils soient homo, travailleurs ou réfugiés. Avec la crise migratoire qui a secoué la Croatie tout au long de l'année 2015, elles ont d'ailleurs intégré une nouvelle chanson à leur répertoire, Clandestino de Manu Chao. Sinon, elles chantent surtout des chants religieux et révolutionnaires et des reprises de tubes balkaniques dont elles réécrivent les paroles. Leur titre le plus célèbre, c'est par exemple une adaptation pro-lesbienne d'un hit de Thompson, le Johnny croate, connu pour son nationalisme forcené. Après plus d'une décennie d'existence, Lesbor s'est imposé comme l'une des références de la contre-culture balkanique et le groupe se produit régulièrement dans tous les pays de la région et même au-delà dans toute l'Europe.
Moi, si j'ai bien une qualité, c'est que je fais jamais de faute d'orthographe.
Faux !
Les gens qui écrivent bien, ceux qui font pas de faute d'orthographe, ils aiment bien te foutre la honte en lisant et en corrigeant ce que t'as écrit. Légumes. Accent aigu et légumes. Soupe. Mais t'as écrit soupe avec 5 P ?
Comme le youtubeur Norman, les Français sont de plus en plus nombreux à être fâchés avec l'orthographe, y compris des bacheliers et diplômés, des cadres et des chefs d'entreprise. Selon une étude, entre 1985 et 2007, on estime que les élèves ont perdu l'équivalent de 2 années scolaires en orthographe. Alors pour rattraper le temps perdu, des adultes professionnels se remettent à la grammaire et à l'orthographe. Reportage de Frédéric Lebel lors d'une formation proposée par l'organisme de formation privée Segos dans le quartier parisien de la Défense.
Alors, nous allons reprendre les phrases. Donc je vous rappelle, voilà une phrase type en français. Un verbe au centre.
En contrebas, le parvis de la Défense grouille d'hommes et de femmes d'affaires pressées, mais au troisième étage de la tour Atlantique, 10 professionnels ont choisi de revenir sur les bancs de l'école pour réapprendre les rouages du sujet-verbe-complément. Ancienne orthophoniste, Aurore Ponsonnet est aujourd'hui formatrice. Elle voit défiler tous les profils, en collectif comme en individuel.
J'ai connu un chef d'entreprise qui comptait depuis le début de sa carrière sur sa secrétaire et il m'avait dit, voilà, jusque-là j'ai réussi à masquer et maintenant je dois tout rédiger tout seul, je n'ai plus de secrétaire pour relire, pour faire à ma place. Donc là, je suis perdue, il était extrêmement stressé à l'idée que ses salariés découvrent qu'il avait des difficultés en orthographe.
Alors si je dis, je parle de qui ? De Michel. De Michel, c'est le COI.
Depuis quelques années, ce qui a énormément changé dans la vie professionnelle, c'est qu'on écrit tout. Et même dans des postes où on ne devait pas écrire au départ, eh bien on a demandé aux salariés d'être équipés en tablette, smartphone ou ordinateur, et on leur demande de laisser des traces écrites de tout ce qu'ils font. Donc c'est ça qui change tout. Ce qui fait qu'on a découvert l'ampleur du problème, on a découvert que à tous les niveaux, je dis bien à tous les niveaux d'études, tous les niveaux professionnels, on peut avoir des difficultés en orthographe.
Ok, alors vous vous souvenez, sur la commode, là on a vu plusieurs tiroirs, d'accord ? Il y avait le tiroir des noms, des verbes.
Dans le groupe, il y a Patrick, ancien électricien de base, précise-t-il, qui a gravi tous les échelons. Christelle, chef d'équipe dans une société de location de voitures. Et Romain, étudiant en BTS en apprentissage. Tous décrivent une vie de bureau compliquée.
On s'aperçoit vite que l'orthographe, c'est important. Et puis ça devient vite un problème parce qu'en fait, on en fait un complexe.
J'utilise être. Quand j'envoie des mails à un client, envoyer un mail avec des fautes, je trouve ça inadmissible. Donc comme je ne peux pas m'auto-corriger, parce que je ne suis pas assez bonne dedans, et je ne peux pas faire lire les mails à mes collègues, parce que je suis leur responsable, et puis préparer des lettres de motivation, des CV, pour, si jamais je décide de changer de poste, une lettre de motivation sans faute, c'est quand même mieux.
Quand je dis « c'est fait !»
C'est vrai qu'on ne se sent pas sûr de soi, et du coup on est vraiment fébrile dès qu'on me demande de... Est-ce que tu pourras me faire un mail? Je dis oui, mais je sais que du coup, ça va me prendre la tête parce que je vais l'écrire, mais après, il va falloir que j'appelle ma mère pour qu'elle me dise est-ce que tu peux me le corriger. Je me sens vraiment un peu désarmé face à cette situation, quoi.
Pas les verbes. Le avoir, le tiers avoir et être. Pour moi, quand il y a les deux rapprochés, ça annule.
Bonne pédagogue, Aurore Ponsonnet multiplie les exercices, les prises de parole, les mises en situation, avec quelques petits trucs qui permettront de s'en sortir.
Comment on écrit « offert » ?
Avec un T. Oui. Je l'ai offerte.
Voilà, offerte. On ne dit pas « j'ai offerte ». Tu penses à une chose offerte, mais une chose ouverte, une chose offerte, une chose inscrite.
Comment survivre dans le milieu professionnel avec un stylo aussi peu complice? Tous ont pratiqué la stratégie de l'évitement. Patrick, lui, s'est appliqué l'infinitif du verbe positiver.
Après, il faut l'assumer. Moi, je pars du principe qu'on a tous des qualités. Je travaille sur mes qualités pour les garder et montrer que voilà, je suis bon là. Et puis, reconnaissez-moi pour ça. Et puis, mes défauts, acceptez-les, quoi. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Ce que je souhaite, c'est m'améliorer, puis de regarder d'où je viens, puis de me dire aujourd'hui, déjà, où j'en suis, moi. J'ai énormément progressé, j'essaye de progresser encore.
2 jours de formation, c'est à peine ce qu'il faut pour mesurer l'ampleur du travail encore à accomplir. À la sortie, les élèves repartiront avec un code d'accès pour la formation en ligne Projet Voltaire, une formation qui a déjà séduit 3 millions d'utilisateurs, 700 entreprises et 1000 écoles. C'est dire si le besoin est réel.
Cette pop instrumentale que vous entendez est celle du groupe suédois Wintergatan, Voie lactée en français. Mais en réalité, cette musique est jouée par une machine, une grande machine artisanale en bois qui combine plusieurs instruments et les actionne en utilisant le principe de la réaction en chaîne, Benoît Darrier.
Connu en Suède pour sa pop instrumentale inventive et loufoque, le groupe Wintergatan prend un malin plaisir à truffer ses compositions de sons inattendus, comme ceux d'un projecteur de diapositives en guise de percussion. Mais leur dernière composition franchit une nouvelle étape dans l'insolite. Elle est en effet jouée sur une machine construite par les membres du groupe eux-mêmes. Il s'agit d'une machine de Rube Goldberg. C'est ainsi que l'on nomme les mécanismes qui réalisent des tâches simples de manière délibérément complexe, au moyen d'une réaction en chaîne démesurée, comme par exemple la chute successive de dominos. Dans le cas présent, la réaction en chaîne est provoquée par une grande roue en bois activée par une manivelle. Cette roue entraîne des billes d'acier au sommet de la machine et les fait chuter sur les lamelles métalliques d'un vibraphone. L'engin, qui dépasse les 2 mètres de hauteur, semble tout droit sorti de l'atelier d'un menuisier farfelu et fait penser à un grand orgue de barbarie. Il en reprend d'ailleurs le principe, mais à défaut de faire défiler une partition perforée, la manivelle met en action des pièces de Lego disposées sur la grande roue en bois, pièces qui actionnent à leur tour des clapets, libérant les 2000 billes d'acier sur les lamelles du vibraphone en fonction du morceau à reproduire. Et comme si tout cela ne suffisait pas, la machine incorpore une grosse caisse, une caisse claire et même une basse électrique, toutes également actionnées par la chute des billes. Jouer de ce mini-orchestre tient plus de la performance de cirque que du concert. Une vidéo du leader du groupe, Martin Molin, actionnant la machine, a été publiée le 1er mars et a déjà été vue près de 10 millions de fois, soit l'équivalent de la population suédoise.
Accent d'Europe, une émission réalisée et mise en onde par Françoise Grelot et Jérémy Besset. On se retrouve demain dès 17h40 en universel.
Et si le temps d'un été